L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 14h04 sur le mythique circuit automobile des 24 heures du Mans. Nous sommes le 15 juin 1969. Depuis un instant, Jackie X est devenu une légende, mais il ne s'en est même pas encore rendu compte. Pour 120 mètres et une poignée de petites secondes, il a terrassé la surpuissante Porsche 908 au volant de sa Ford GT40. Son numéro 6, qui grâce aux rayons du soleil inonde de lumière les tribunes bien garnies et exaltées, est entré avec lui dans la légende. En passant la ligne, les images de ces dernières 24 heures ne cessent de remonter à la surface. Ce domptage des courbes du circuit de la Sarthe, l'un des plus beaux de l'histoire, place la Belgique au centre du monde du sport automobile. Le tout grâce au génie d'un gamin de Bruxelles. 24 heures plus tôt, alors que le départ se prépare, rien ne le donne vainqueur. Non pas que son talent soit remis en cause, non. Sa machine est bien moins impressionnante que les Porsche 917 et 908, monstrueuses avaleuses de bitume dressées pour gagner et pour regarder les Ford depuis leur rétroviseur. La confiance n'est pas de mise, donc, comme vous pouvez l'imaginer, chez la John Wire Team, l'équipe de Jackie X. Elle aligne deux voitures, donc quatre pilotes. Jackie est le seul étranger, les trois autres sont des Anglais. Son coéquipier pour les prochaines 24 heures est Jackie Oliver, un super pilote au nez aussi grand que celui du duc de Wellington. Sans doute un bon présage. La GW Team a tout de même décroché trois fois le titre au Mans, mais cette année, la chance semble leur avoir filé entre les doigts. Seuls Ferrari, Bentley et Alfa Romeo ont réussi une passe de 4. Rarissime performance donc, et la puissance des monoplaces allemandes cette année semble condamner cette perspective. Il est 13h50, ce 14 juin 1969. Voilà une date bénie des dieux pour gagner, pense X, en enfilant sa paire de Ray-Ban toute neuve. Il y a presque 200 ans, des victoires au prix du sang ont été glanées un 14 juin. Il a chaud. Il a très chaud dans sa combinaison blanche et ses lunettes glissent à cause de la transpiration qui s'intensifie. Les dernières consignes d'équipe ont été données. Il les a écoutées distraitement et vient de sortir en direction de la voie des stands. Le Belge prépare un coup en réalité. Il l'a mûri depuis quelques semaines. Et même s'il hypothèque certainement ses chances de victoire, il mise sur l'exemple. Sous les reflets du soleil, tout près de lui, attendent les 45 Cerbères, alignés en épi. Bientôt, les fauves vont être lâchés sur la piste pour ne s'arrêter que le lendemain. Encore une nuit sur les Hunaudières, encore 24 heures pour défier la mort et effleurer le ciel du doigt. X est prêt, comme les autres. Un sourire malicieux en coin. Il enfile son casque, comme les autres. Regarde à gauche, à droite, et vérifie que tous les autres pilotes sont prêts, dressés, le genou en avant, prêt à détaler. En effet, pas de départ sur la piste au Mans. C'est encore la manière archaïque, celle de se mettre en ligne et de courir à sa voiture une fois le drapeau à damier agité. À croire qu'être bon sprinteur vous fait gagner des courses. Jackie enrage après l'organisation. Il a demandé à plusieurs reprises que cette tradition soit supprimée. Confondre vitesse et précipitation, c'est porter la responsabilité d'une mort à chaque course, ou presque. Juste à côté de lui, John Wolfe se prépare à courir. Bientôt, lui aussi va entrer dans la légende. X le regarde distraitement et attend l'ordre de départ. Sa position dénote. Il a presque les mains dans les poches de sa combinaison. Le départ est décalé de 2 heures pour cette édition, élection présidentielle oblige. Demain, Georges Pompidou sera président et Jackie sur le toit du monde. En attendant, il patiente. Il trépigne presque. Il regarde sa montre et bientôt l'heure fatidique arrive. Il est 14 heures. Le drapeau s'agite enfin et son flottement transperce le silence qui s'était installé comme une chape de plomb dans les tribunes et dans les stands. C'est maintenant la tempête qui s'abat sur la piste. Tous les coureurs se ruent dans leur monoplace, tous. Ils s'installent dans les baquets, enfilent à la hâte leur harnais, font rugir les moteurs et démarrent. Tous ? Eh bien non. Non, Jacques X, le casque vissé sur la tête, avance à pas feutrés, comme en balade, et traverse la voie des stands à son aise. Il manque de se faire percuter par les 3-917 et les 3-908 qui avalent déjà les premiers mètres d'asphalte. Le Belge connaît tout le pouvoir de la sphère médiatique. Il a fait le choix de la protestation par l'image, sans hurler. Il désapprouve en silence, calmement, avec parcimonie et avec classe. Il rentre doucement dans sa voiture, prend le temps d'attacher son harnais, active les pompes. Bientôt, le moteur 5 litres de son bolide rugit de plaisir et bon dernier, Jackie s'offre encore le luxe de regarder si la piste est dégagée sur sa gauche avant de s'élancer. Le retard qu'il accumule sur les Porsche en tête est déjà de plus d'un demi-tour. Mais sans paniquer, avec concentration, X assume la manœuvre. Il s'y flotte « Get back des Beatles » et pense à sa femme. Il ne le sait pas encore, mais son geste de protestation, conjugué à une catastrophe dès le premier tour, vont condamner pour toujours ses départs d'un autre âge. Il est 14h03. Et la Ford GT40 numéro 6, le chiffre symbolisant l'harmonie, est entré dans l'arène. Les 45 monoplaces sont en course depuis à peine 2 minutes. Aucun pilote n'a encore passé la première fois la ligne d'arrivée que déjà les 400 000 spectateurs sont pris à la gorge par le goût très amer que peuvent avoir les accidents. John Wolfe, le Britannique que regardait il y a quelques minutes encore X en marchant, est en piste, à la 12e place dans sa Porsche 917 numéro 10. Le modèle est nouveau, le pilote assez peu expérimenté. À Mulsanne, il se loupe un peu en freinant un peu tard, puis se stabilise. Mais un peu plus loin, à la sortie d'un énième virage, le prototype mord sur l'herbe. Et Wolf s'écrase à pleine vitesse sur le talus en face. Instantanément, il se fait éjecter de sa voiture qui prend feu, au milieu de la piste, coupée en deux. Le Britannique est tué sur le coup. Et derrière lui, une Ferrari qui traverse la boule de feu vient aussi s'accidenter et s'enflamme. Heureusement, cette fois, le pilote est sauf, légèrement blessé. 4 minutes de course et on déplore déjà un mort sur le circuit du Mans, emporté par la faux de la grande faucheuse. Un de plus, alors que la veille, aux essais, un célèbre pilote français, Henri Pescarolo, s'en est tiré de justesse, coincé dans un incendie. Il en gardera les séquelles pour le reste de ses jours. Dorénavant, son visage portera à jamais les stigmates des flammes. X est bon dernier, mais au moins il est harnaché correctement dans sa Ford. Rugissant sur la piste, prenant les chicanes à pleine vitesse, traversant les Hunaudières, l'une des plus grandes lignes droites du monde en circuit à pleine vitesse, dépassant les voitures de la catégorie GT moins puissantes les unes après les autres, il avale les temps forts, jamais beaucoup plus de 3 minutes par tour. Le premier relais est prévu pour durer 3h30. Au bout d'une heure, il arrive au niveau de la deuxième voiture de l'équipe, qu'il double sans encombre. L'autre équipage est aussi constitué de féroces compétiteurs. Mike Elwood est une légende des sports mécaniques, multiple champion du monde moto. C'est lui, dans le cockpit de l'autre Ford. Vous imaginez Valentino Rossi courir au Mans ? C'est ce qui se produit, cette édition 1969, dans l'imaginaire des fans de sport auto. En attendant, le jeune Jackie, pour sa 3e participation, tente de remonter son retard accumulé depuis le choix qu'il a fait au départ de la course. La fin de la 2e heure se profile. Et les monstres Porsche continuent de truster les premières places avec un aplomb tel qu'ils suggèrent qu'elles sont intouchables. John Wire, patron de l'écurie de X, lui, est persuadé que sa quadruple couronne est perdue. Il est 16 heures. Et depuis plus de 120 minutes déjà, transpirant dans leur combinaison et tentant de maintenir en vie leur prototype, les pilotes enchaînent les tours, attaquent les hunaudières toujours plus vite, toujours avec plus de détermination. En tête, la Porsche 917, numéro 14, améliore ses performances à chaque passage. La voiture est rapide, mais on manque de recul pour estimer la fiabilité de ce nouveau modèle de la marque. Heureusement pour la firme, aucun nuage à l'horizon, tant au sens propre qu'au figuré. La 917 avale les kilomètres, ne laisse aucune chance à ses poursuivants, et les pilotes allemands qui composent l'équipage se voient déjà auréolés de la suprême couronne des vainqueurs du Mans. Mais l'excès de confiance est un défaut qui peut bien souvent coûter cher dans la Sarthe. Blanc et jaune, le bolide est impressionnant pour les spectateurs. Il est comme collé au goudron, et le pilotage parfait dans son pilote renforce ce sentiment. Sur le papier, tout est donc parfait. Cependant, et alors que le temps commence tout doucement à s'assombrir autour de 17 heures, le pilote de la Porsche numéro 14 constate une perte de vitesse inhabituelle. La crevaison lente en cause oblige le pilote à rentrer au stand de manière prématurée. Pas de changement de relais. Il est prévu dans une demi-heure. Et le bolide repart sans encombre, toujours à la première place. Mais très rapidement, une nouvelle déconvenue vient tomber sur la firme allemande. De manière inexplicable, une fuite d'huile moteur se joue sur les performances de la voiture de tête. La fin du premier relais, heureusement, se profile. Lors de l'échange de pilotes, Jackie Hicks est plutôt satisfait de son premier relais. Tout est entre les mains de son coéquipier maintenant. Il doit au moins maintenir ce rythme, rester près des Porsche, qui reste, soyons clairs, inatteignable. Le jeune Belge ne quitte pas cet état de transe qu'il a en piste et près des ingénieurs analyse avec attention les données de chaque tour. Il remarque la trop grosse différence avec les voitures de tête. Enrage après les Allemands. Mais bientôt, presque soudainement, les données changent. Et la numéro 14 en tête semble lever le pied. Ah ben c'est bien entendu très inhabituel et Jackie s'interroge comme les autres. Tour après tour, malgré un rythme toujours intéressant, les difficultés semblent s'accumuler pour Porsche. Reprenons ensemble. D'abord, une première 917 a été le tombeau de John Wolff au premier tour. Puis une deuxième semble baisser en énergie. Elle s'est arrêtée une première fois pour une crevaison. Elle semble maintenant victime d'une fuite d'huile et X commence tout doucement à se dire qu'elles ne sont peut-être pas si fiables, ces Porsche. Mais pour le moment, elle est toujours en tête, cette foutue numéro 14, et elle avale du kilomètre sans se laisser perturber par ses petits pépins. Sa voiture à lui, une des Ford GT40 aux couleurs Gulf, bleu et orange, stagne dans ses performances. Elle pourrait certainement s'améliorer et tenter de refaire un peu son retard, mais le coéquipier du jeune Bruxellois est à la peine. Du moins, il semble l'être. Jackie voit cependant le verre à moitié plein. Il ne perd pas de temps non plus. Il regarde sa montre, il est 18h. Dans 2h30, il sera de retour sur la piste. Il reste une chose à faire. Dormir. Du moins, tenter de se reposer un peu. Il salue ses ingénieurs, les mécaniciens et s'isole dans sa caravane, à l'arrière du tumulte. Alors que Jackie Hicks goûte au repos du guerrier, son coéquipier sur la piste, le soleil dans le dos, attaque les hunaudières. Pour lui, le Mans est le plus dangereux des circuits au monde et cette ligne droite, rien que son nom, lui fait hérisser les poils. Elle n'a toujours pas de chicane et la vitesse prise au milieu de la ligne est tout bonnement dantesque. Il regarde son compteur. 360 km par heure, une folie. L'ancienne voie romaine Le Mans-Tours est aujourd'hui une zone où des bêtes monstrueuses frôlent les 400 km par heure. Un simple choc, et c'est la mort assurée. L'énergie cinétique y est folle. Voyez plutôt, un pilote de 80 kg lancé à 300 km par heure devient un missile lancé à plus de 20 000 kilomètres heure force en cas de choc. Autant vous dire que le corps humain n'est pas programmé pour subir ce genre de catastrophe. Alors les pilotes, les mains crispées sur le volant, prient à chacun de leur passage qu'ils soient croyants ou non. La fin du deuxième relais arrive, à 20h30. Toujours en tête, la numéro 14 est certes toujours moins bonne dans ses temps, mais suffisamment véloce pour garder la première place, suivie par l'autre Porsche 917 de l'écurie et une 908 à la dernière marche du podium. Triplé allemand donc, lorsque X renfile son casque pour la deuxième fois. La numéro 6, qui se reflète sur le soleil couchant de France, est à la cinquième place. La voiture du Belge, poussée au bout de ses limites, est heureusement extrêmement fiable. Lorsqu'il entre dans le baquet, il prend au passage des nouvelles de son coéquipier, complètement lessivé par plus de 3 longues heures de combat. Jackie, lui, se sent pousser des ailes. Il est 21h. Le soleil se couche le long de la voie des stands et l'obscurité naissante s'accompagne d'un léger vent de nord-ouest qui fait bruisser les feuilles des arbres alentour. L'obscurité sera son allié, pense le jeune pilote. Et il démarre pied au plancher, la confiance des vainqueurs l'accompagnant à ses côtés. La nuit va être longue et les moteurs rugissants à l'approche de celle-ci lui font offrande, espérant voir le jour se lever dans quelques heures.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Jackie X lors des 24 heures du monde 1969. Après un célèbre départ qui va faire le tour du monde, durant lequel il proteste officiellement contre l'organisation des départs au sprint de ces courses mythiques, son coéquipier et lui ont refait une partie de leur retard sur les Porsche et leurs modèles beaucoup plus rapides que leur Ford GT40. À la tombée de la nuit, les Allemandes sont encore intouchables. Mais l'obscurité semble favoriser les Ford qui performent et comptent sur les défaillances de l'adversaire qui, sans nul doute, ne vont pas tarder à se produire. Il est 4h du matin lorsque Jackie entre une nouvelle fois dans le baquet. L'obscurité est totale. Et seul le bruit des moteurs passant la ligne droite, longeant les stands, vient perturber le silence qui s'est installé dans les tribunes, devenu par endroits un dortoir géant et glacial. Le début de la nuit a tellement été dantesque que le Belge n'a pas dormi lors du relais de son coéquipier. Il ne sait pas encore si la chance leur sourit, mais il s'accroche à cet infime espoir de terrasser l'ogre germanique qui fait face à des ennuis tellement importants qu'il chancelle sur son piédestal. La numéro 14, vous vous souvenez ? L'avaleuse d'asphalte, si rapide qu'elle en pulvérise des records. Elle a été contrainte à l'abandon quelques heures après le coucher du soleil. La raison ? Problème d'embrayage. Pas de quoi pavoiser cependant. La seule 917, rescapée du naufrage des autres, a pris la tête pied au plancher. Cette numéro 12 est entrée dans une bagarre folle avec les Porsche 908, l'ancien modèle, moins rapide, mais visiblement plus fiable. La Ford GT40, elle, est pour l'instant condamnée à tenter de jouer les troubles faites. Au fil de la nuit, les abandons se multiplient et X est ravi de voir que sa voiture passe entre les gouttes. Une Matra, une Ferrari, les Alfa et bien d'autres sont contraintes à l'abandon. Sur les 45 véhicules engagés au départ, il n'en reste que 25 au moment où la première voiture de tête est contrainte de jeter l'éponge. Au petit matin, au moment où Jackie reprend le volant, 4 nouvelles voitures sont rentrées au stand avant de terminer la course. La victoire au Mans se joue généralement à l'époque en plus ou moins 370 tours. X le sait. Il va devoir miser sur un miracle pour gagner. Dans les stands de la marque allemande, l'heure n'est pas encore à l'inquiétude. Après tout, les 3 premières voitures de devant sont des Porsche, dont 2 908, qui sont jugées fiables. Les hautes têtes du team en sont persuadées. C'est la fin de l'hégémonie du John Wire Team. La dernière des 917 est couverte par les 2 autres 908 et la Ford GT40. A beau être pilotée par ce diable de Belge, ils sont confiants. La firme n'a encore jamais remporté l'épreuve alors que ses bolides sont parmi les plus performants de l'histoire du sport automobile. C'est une hérésie qui doit être corrigée au plus vite. Et si en plus, un triplé est au bout du chemin, ce sera une performance historique. Du côté des ingénieurs, on analyse les relevés. Tout semble normal. Il reste 12 heures de course. La moitié du parcours est complétée. Les Allemands mènent depuis le départ et même si les munitions commencent à manquer, rien ne semble plus pouvoir les mettre en difficulté. Oui, mais voilà. Le dieu des 24 heures du Mans réserve toujours quelques surprises, surtout quand il s'agit d'écrire l'histoire de ce sport si spécial qu'est l'endurance. Une heure après le constat positif fait par le staff des Allemands et de manière totalement soudaine et inexplicable, une 908, pourtant réputée pour sa fiabilité, est contrainte à l'abandon. Il est 5 heures du matin. X roule dans son troisième relais depuis une heure et le voilà troisième des 24 heures du Mans. Au tour 199, lorsqu'il déboule à côté de ce bolide agonisant sur le bord de l'entrée d'une Audière, il exulte. Un léger vent frais se lève à l'extérieur. La lune se couche pour laisser la place à l'aube et au-dessus de sa tête brille une étoile. Devant lui, il ne reste plus que deux monstres de la marque allemande. Derrière lui, la meute le poursuit avec pugnacité et il ne peut se permettre aucun relâchement. Les matras lui collent au train et deux de ses voitures se trouvent juste derrière la deuxième voiture Ford. X passe la ligne d'arrivée pour la 200e fois depuis le départ à Tübörzing. Il est acclamé par les tribunes qui se réveillent et qui déjà sont en fusion. Les haut-parleurs sont repartis à tue-tête et passent en boucle les derniers titres du hit-parade. Quand il s'engage pour prendre le premier virage, il reconnaît le riff de guitare de Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Serait-ce un message qu'on lui envoie ? Ah, il se plaît à y croire. Et prenant les courbes les unes après les autres, passant les rapports toujours plus en avant, il attaque les Hunaudières plus rapidement que pendant la nuit. Un sentiment d'acharnement, de rage presque, l'envahit. Cette victoire, elle est pour lui. Et alors que le circuit sort doucement de sa léthargie nocturne, et que la rosée du matin se pose sur les carlingues et les chicanes, Jacky X est persuadé de filer droit vers son destin. Au réveil, c'est tout un peuple qui commence à croire en ses chances de podium. La Belgique se réveille haletante, stressée, mais avec le sourire ce matin du 15 juin 1969. Les Belges n'ont pas seulement les yeux fixés sur les voitures de tête. En effet, il faut savoir que Le Mans a toujours dissocié ses participants en deux catégories. Les prototypes, dont font partie les Porsche de tête et X, et les GT, qui regroupent des voitures moins puissantes. Cette catégorie est dominée outrageusement depuis les premières heures de la nuit par un duo du plat pays, roulant lui aussi dans une Porsche de modèle 911. Cette écurie privée, financée uniquement sur des fonds propres, hors des géants automobiles, s'appelle l'écurie Jean-Pierre Gaban, du nom d'un de ses pilotes. Pour le dire plus simplement, M. Gaban paye lui-même sa participation aux 24 heures. Il partage son baquet avec un de ses vieux amis, Yves Depré. Du 100% belge qui court ensemble pour la première fois sur le circuit de la Sarthe. Cette équipe qui dénote parmi les gros teams est donc première de sa catégorie à 5 heures du matin lorsque les amateurs de la course en Belgique se réveillent. Et alors que Yves Depré participe pour la première fois de sa vie à l'une des courses reines du sport automobile, il passera l'arrivée en tête de sa catégorie à 14 heures le 15 juin. Alors même que Jacky X s'efforce d'écrire sa légende qui le mènera peut-être à une victoire hallucinante dans quelques heures, l'équipe Gaban va se payer le luxe d'offrir à la Belgique un doublé retentissant pour la seule et unique fois de son histoire lors de cette épreuve du Mans. Il est 7 heures du matin lorsque Jacky X descend de sa voiture pour laisser son coéquipier britannique reprendre le volant. À ce moment-là, l'écart entre les deux Porsche à l'avant et les deux Ford ne s'est pas réduit. Mais l'équipe décide de ne rien lâcher et de tenter le tout pour le tout. Dans leur rétroviseur, les deux voitures de tête commencent à voir les deux monstres de l'écurie britannique se rapprocher dangereusement. Et les pilotes de la firme allemande, tout doucement, sans s'en rendre compte, en viennent à douter. Non pas de leur pilotage, non, mais de leur fiabilité. John Wire leur a jeté un sort, pense l'un d'eux. Et ils ne pourront rien y faire. Juste appuyer sur l'accélérateur le plus possible, en espérant qu'ils puissent passer la ligne d'arrivée avant que les ennuis mécaniques ne les achèvent pour de bon. La tension dans les stands est palpable partout, tant dans les écuries hors course que dans celles encore en lice. Le combat qui s'engage en tête est un duel à mort. Deux Porsche contre deux Ford. Deux mondes qui s'opposent. Deux styles de pilotage. Une écurie reine depuis 3 ans et l'autre reléguée depuis trop longtemps du rang de second qui espère réussir son coup d'État. Le roi Ford, celui qui fut chassé les 3 précédentes éditions par ses adversaires, endosse maintenant le rôle de chasseur. Les moteurs V8 des deux GT40 font bien comprendre aux Allemands qu'il ne sera pas si facile d'abattre la dynastie Ford. Depuis son siège dans les stands, X a les yeux rivés sur les écrans. Ses doigts se sont croisés et son autre main agrippe la table devant lui avec une force surhumaine. Plus que 7 heures de course. 7 heures pour refaire en retard et arracher la couronne qui semblait encore totalement hors d'atteinte il y a quelques heures. C'est ça le Mans.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une des éditions les plus mythiques des 24 heures du Mans. Celle de 1969. Le 15 juin, au lever du soleil, la domination des Porsche est mise à mal. Principalement à cause de soucis de fiabilité qui viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Le Belge Jacques X et son coéquipier britannique, eux, sont 3e en début de matinée. Alors que l'espoir renaît au sein de leur écurie, John Wire, un incroyable coup de pouce du destin va leur permettre de revenir dans la course. Nous sommes le 15 juin 1969. Il est 10h. Jackie est dans les stands, le regard rivé sur la piste, et il compte les tours. 295, 296, 297. Nom de Dieu! Les temps ne bougent que d'une manière infime et nous sommes à 4 petites heures de l'arrivée. Il trépigne, grimpe sur le parapet pour mieux suivre la piste du regard, calcule, imagine des théories plus ou moins folles, se prend la tête entre les mains. Soudain, il perçoit du mouvement derrière lui. C'est une Porsche qui rentre au stand, en plein milieu d'un relais. La dernière 917 en course, blanche et bleue, est à l'arrêt. Le pilote ne sort pas de l'habitacle, ce n'est donc pas un abandon. Mais l'arrêt dure une éternité. X se précipite vers ses ingénieurs. À combien de temps la Ford est-elle de la 917 de tête? 4 minutes. En voilà déjà 2 que le bolide allemand vient de passer auprès de ses mécaniciens. Interminables secondes qui deviennent d'interminables minutes. Et toujours aucun signe de vie du côté de la firme de Stuttgart. C'est de la sorcellerie ou quoi, ce qui leur tombe sur la tête? Du côté du circuit, la Ford GT40 numéro 6, la sienne, vient de passer. Les voilà 2e. Jackie exulte, prend ses mécanos dans les bras. Il n'en revient pas lui-même. Et un peu plus loin, la 917 ne bouge toujours pas. 2 minutes plus tard, soit un arrêt total d'une durée interminable de plus de 6 minutes, elle repart finalement d'un train de sénateur totalement incompréhensible. Toute l'équipe du Belge est scotchée. La Porsche roule au ralenti et son arrivée sur la piste ne change pas la donne. Nous sommes au tour 317 et la chance semble avoir tourné. Dans 1 heure à peine, X sera dans la voiture pour gérer la fin de la course. Toutes les chances de son team seront donc entre ses mains. 1 heure plus tard, c'est la stupeur une fois de plus dans les tribunes et dans les paddocks du Mans. La 917, entrée au stand un peu plus tôt, vient finalement d'abandonner avec les honneurs et après plus de 18 heures passées en tête. Alors qu'il démarre son dernier relais, le jeune Jackie imagine très clairement les sensations de frustration et de colère que ses pilotes doivent ressentir. Mais c'est la loi de la course. Lui, de son côté, repart en 2e position. On attaque maintenant le 327e tour. 50 passages pour la gloire. 50 tours pour le titre et l'hégémonie. X roule pied au plancher. le vent se répercutant sur la carlingue et le moteur en fusion. En plein milieu des hunaudières, il commence à avoir peur. Certes, la dernière Porsche devant lui a de l'avance, mais il devrait commencer à l'apercevoir maintenant, au moins au bout de la ligne. Mais là, rien. Il accélère encore, passe les virages, mord les vibreurs, sue à grosses gouttes à cause du stress et arrive à Mulsanne. Là, sur le côté de la piste, gît la Porsche 908, son pilote vociférant à côté d'elle. Morte, c'est ça ? Elle était morte et son conducteur, totalement hors de lui, est en train de frapper dans la carlingue. Jackie passe en trombe. Il croit encore qu'il reste une voiture devant lui. Mais non ! Il recompte dans sa tête. Il est P1 sur les 6 voitures qu'elle a lancées au départ. Et après 21 heures de main, sur les 24 heures de la course, l'écurie Porsche se trouve derrière la Ford numéro 6. Les Allemands ragent. Ils sont dans tout leur état, passent de l'incompréhension à la colère, de la tristesse à la combativité, et décident finalement de ne rien lâcher. Certes, passer de position de chassé à celle de chasseur après autant de temps de course, c'est plutôt difficile à avaler. Mais le duo de la dernière 908 en course est redoutable. Et elle est encore dans les temps pour doubler la Ford de Jackie X. Il est 11h10. Ce 15 juin 1969. Et la bataille qui s'engage promet d'être absolument folle, pour le plus grand bonheur des centaines de milliers de spectateurs. 3 petites minutes séparent alors les 2 voitures de tête. En moins de 10 minutes, le village de la course est déserté au profit du spectacle de la course et plus une seule âme qui vive. Tous les spectateurs ont garni les tribunes et les gradins. La tension est à son maximum depuis la veille. Elle est palpable. Elle se ressent des mécaniciens aux commissaires de course. Tous ont les yeux rivés sur la piste et sur les 2 voitures de tête qui, bientôt, vont se rendre coup pour coup. Peu après 11h15, alors qu'il perd 5 secondes par tour, X décide de rentrer au stand. Il est nécessaire de changer les plaquettes de frein et il doit ravitailler en carburant. Jackie ne peut s'empêcher de penser qu'il est à la même position que la 917 tout à l'heure, celle qui, pendant des minutes qui lui semblaient des heures, est restée au stand. Déjà 2 minutes qu'il attend. Encore 1 minute et il perdra la tête de la course. Les plaquettes sont changées, enfin. Mais le ravitaillement semble prendre un temps fou. Il perd définitivement son sang-froid lorsqu'il voit passer la 908 à fond à côté de lui. Il pousse les mécanos, fait un ultime point avec les ingénieurs et, pied au plancher, repart avec 47 secondes de retard sur la Porsche. Il enrage, mais il a un avantage certain sur son adversaire. Ses plaquettes sont neuves, sa voiture ravitaillée. À un peu plus de 2 heures de l'arrivée, plus d'arrêt de prévu avant le drapeau à damier. 20 minutes plus tard, c'est à la Porsche 908 de s'arrêter pour un ravitaillement. C'est la chance de Jackie X. Mais les mécanos allemands sont rapides, très rapides même. Et à peine la Ford a-t-elle dépassé la voie des stands que la voiture allemande ressort juste dans ses roues. Pendant 1 heure, roue contre roue, la guerre fait rage entre les 2 pilotes. En vitesse de pointe, dans les hunaudières, la Porsche refait son retard. Mais entre les chicanes et sur les vibreurs, la vélocité de Jackie X fait des miracles insoupçonnés. Derrière la Ford, le Français Gérard Larousse, qui pilote la 908, hurle de rage, trépigne. Il est à bout de souffle, passe les rapports avec vigueur, ne décélère qu'au dernier moment, prend des risques à chaque virage. Le problème, c'est que le Belge prend les mêmes. Il garde son avance, fait crisser ses pneumatiques, des étincelles roulent sur la piste comme des lucioles et les bolides sur la piste depuis près de 22 heures, fatigue, s'use. À 12h34, alors qu'il pensait pourtant ne pas devoir s'arrêter, Jackie X doit ravitailler une dernière fois. Il ressort cette fois en position de chasseur, juste derrière la Porsche, qui subitement décide elle aussi de s'arrêter pour faire un changement de pilote à 12h42. La Ford revire en tête à un peu plus d'une heure du tour final. La Porsche numéro 64, la survivante, est dans ses roues. Elle a cependant commis l'erreur de ne pas faire changer ses plaquettes, à la différence de la Ford. Plusieurs fois, les freins montrent des signes criants d'usure. Le tableau de bord du bolide s'affole. Mais le pilote ne panique pas. Il assume ce choix et profite de l'aérodynamisme plus fin de sa voiture pour faire la différence en ligne droite. Les deux pilotes, à 13h50, attaquent le 371e tour de course. L'Allemand ne dispose que d'une seule chance pour faire la différence. Prendre le meilleur sur X dans les Uno d'hier. Pour cela, il doit prendre l'aspiration et espérer emmagasiner assez d'avance pour ne pas se faire rattraper. Le problème, c'est qu'il est impossible de doubler la Ford dans les autres parties du circuit. Le dernier tour s'engage. Au début de l'infinie ligne droite des Hunaudières, l'Allemand profite de l'aspiration et se hisse à la hauteur de la Ford. Les deux pilotes peuvent se voir, l'un à côté de l'autre, et X reprend l'avantage. Privée de l'aspiration, une fois qu'elle a déboîté, la Porsche, moins puissante, est contrainte de céder la tête. Tout est terminé, c'est la fin. X a gagné. Oui, mais voilà. Quand on pense que tout est sous contrôle, un petit grain de sable peut vite entraîner une tempête. Cette ultime attaque de la Porsche oblige le Belge à maintenir son allure rapide. Traditionnellement, les vainqueurs du Mans ralentissent avant la fin du dernier tour afin d'être certains de passer la ligne après l'heure attendue. Lorsqu'il la passe, pas de drapeau à damier, pas d'explosion de joie. Et pour cause, il est en avance de 20 petites secondes. Il n'a pas le temps de réagir. Nerveusement, le pilote Ford a tout de suite compris ce qu'il se passait. La Porsche va disposer d'une chance supplémentaire pour le doubler et lui ravir la victoire qui semblait lui tendre les bras. La même scène se répète au début des Hunaudières, une ultime fois. Mais cette fois, pour ne prendre aucun risque, X décide de changer de stratégie. Au début de la ligne droite, il freine légèrement. Surpris, le pilote Porsche hésite un instant, puis double à toute vitesse. La manœuvre permet au Belge de faire tomber une vitesse tout en restant dans le sillage de son adversaire et de le doubler à l'extérieur, juste avant Mulsanne. Cette fois c'est gagné, il le sait. Le pilote Porsche le sait aussi. Lorsqu'il arrive dans la dernière ligne droite, le drapeau à damier sur sa droite lui confirme son exploit. Il n'a que 120 mètres d'avance sur son plus proche poursuivant. La malédiction n'est pas brisée pour Porsche et au contraire, toute la firme pense être maudite. Pour X, c'est la consécration alors que sa carrière de jeune pilote est encore longue devant lui. La magie du Mans n'a jamais été aussi belle qu'en juin 1969 et le Bruxellois est entré dans la légende sans frapper à la porte. Il l'a enfoncé, a provoqué son destin, ce qui lui ouvre des perspectives d'une magnifique carrière de pilote durant laquelle il remportera 6 fois les 24 heures du Mans, participera à 113 courses de Formule 1 et inscrira son nom dans les livres d'or des performances uniques de l'histoire du sport automobile. Et Porsche dans tout ça, allez-vous me dire? Les 917, si instables en 1969, vont être placés entre les mains de John Wyer, vous savez, le directeur de l'équipe quadruple vainqueur en titre du Mans, et de Jackie X. C'est banco. Le pari est gagnant pour l'écurie allemande qui, à compter de 1970, ouvre pour elle une période hégémonique qui va la conduire vers 19 victoires. À ce jour, ce qui est un record absolu lorsqu'on parle de victoire constructrice. Le tout grâce notamment au changement opéré après la victoire de X en 1969. Alors d'après vous, sorcier ou pas ce John Wyer? Voilà donc pour cette histoire extraordinaire, l'histoire d'une de nos légendes belges écrite en collaboration avec Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.